Chères auditrices et chers auditeurs, merci d'être revenus cet après-midi pour la seconde partie de notre journée d'études, de notre atelier intitulé Muséotopia. Félouine Sarre et moi souhaitions, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, faire un très rapide résumé de l'état de nos travaux et puis nous enchaînerons directement ensuite. Ce matin, nous avons eu l'honneur, le privilège d'entendre une conférence du professeur Souleymane Bachir Diagne intitulée « Le musée des mutants » où il a évoqué l'idée de musée comme maison d'objets actifs dont la force doit être augmentée et non réduite par leur état muséal. Puis nous avons eu une première table ronde intitulée « L'universel en question » qui a réuni Victor Klaas, Nadia Ayala, Kisukidi et Benoît de l'Étoile, animé par Patrick Boucheron. Et nous avons pu, le temps nous a permis d'y associer une discussion avec le public qui était extrêmement enrichissante pour nous. Je pense que cet après-midi, les sessions nous permettront moins l'échange avec le public. Elles sont un peu plus serrées. Nous vous les présentons, celle qui aura lieu maintenant.
Et donc tout à l'heure, la prochaine session, c'est une table ronde sur les objets comme diaspora, avec El-Hajj Malik Ndiaye, Félix City Bodenstein et Émilie Salaberry. Elle sera modérée par Barbara Cassin de l'Académie française. Et donc de 14h15 à 15h30, il y aura une petite pause. Et une seconde table ronde, Museum or Not a Museum, avec Simon Ndiami. Salia Malé n'est malheureusement pas présent. Il sera remplacé par Kader. Kader Atia était déjà dans le programme, donc il ne le remplace pas. On l'a juste déplacé de... On l'a juste fait glisser. Et Alain Godonou, elle sera modérée par François-Xavier Fauvel du Collège de France. 15h45, 17h. Une dernière table ronde, Réinventer le musée, avec Marie-Cécile Zinsou, Amadi Bokoum, Dan X, qui sera modérée par Philippe Descola, donc qui va nous amener aux alentours de 18h30. Et ensuite, on prendra...
Un quart d'heure. Tenter de résumer, si on y arrive, les grandes idées, les lignes de force qui auront émergé de cette journée. J'aimerais rappeler, je l'ai évoqué ce matin, mais vous montrer peut-être l'affiche d'un colloque qui a lieu demain à la Sorbonne et qui marche comme un autre regard sur les mêmes questions, qui s'intitule « Le retour de la restitution », qui aura lieu donc demain de 9h à 19h en Sorbonne, qui n'est pas organisé par nous, mais dont nous trouvons le programme extrêmement intéressant et on souhaitait vous en faire part, puisque c'est tout à côté. Et c'est parti, Barbara Cassin nous fait l'honneur de consacrer son précieux temps à la modération de cette seconde table ronde. Barbara, à vous.
Bonjour à tous. Donc, cette deuxième table ronde, au fond, c'est le contrepoint de la première. La première portait sur l'universel en question et essayait justement de remettre en question, sans nécessairement y échapper, la notion d'universel. Celle-là, elle part de l'autre côté. Elle part des objets, elle part des cas. Et on va voir si, à partir de là, on arrive à inventer un autre type de cadre, y compris conceptuel, que l'universel, même mutant, dont nous avons parlé ce matin. Donc, trois personnes vont intervenir. Je prends l'ordre du programme. Malik El-Hajj Ndiaye, de Dakar. Malik est docteur en histoire de l'art de l'Université Rennes 2. Il est diplômé de l'Institut national du patrimoine. Il a travaillé à l'INHA. Il est actuellement chercheur à l'IFAN, l'université Cheikh Anta Diop, à Dakar, et conservateur du musée Théodore Monod d'art africain, secrétaire général d'ICOM au Sénégal. C'est au musée Théodore Monod que nous nous sommes rencontrés et que nous avons commencé à travailler ensemble. Il a organisé, orienté l'édition 2018 de la Biennale d'art africain contemporain et en a dirigé la commission Rencontres et échanges. Il enseigne, il collabore à des revues et surtout, il est commissaire d'exposition. Ses publications portent sur l'art moderne contemporain, mais aussi sur les politiques culturelles, sur les institutions muséales africaines. Et je lui donne maintenant la parole pour... Alors, chacun de vous, malheureusement, n'aura que 10 minutes. Je lui donne 10 minutes. Bon, je suis censée incarner le temps. Malik va nous parler de l'objet patrimoine entre mémoire et migration. Malik.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Barbara. Bonjour à tous et à tous. Merci à Féluine et à Bénédicte d'avoir organisé cette rencontre et de m'avoir invité. Et je salue en passant la magistrale leçon inaugurale de ce matin du professeur Souleymane Bachir Diagne. Alors, l'objet de mon propos, c'est l'objet patrimoine entre mémoire et migration. Donc, en 10 minutes, on n'aura pas le temps de développer, mais je pense que dans les questions, on va s'apesantir sur quelques concepts. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre le terme d'objet patrimoine, qui est un objet diasporique, et poser un certain nombre de problèmes, de questions qu'il a pu soulever. Les objets du patrimoine sont assimilables dans leur matérialité à des images du corps diasporique, dans leur mouvement qui les amène d'un usage rituel ou domestique en une définition en objet d'art, en l'occurrence dans les mondes de l'art occidentaux, ils suivent un itinéraire et bien semblable au changement d'identité des personnes. C'est une trajectoire avec plusieurs degrés de violence au cours desquels l'objet peut perdre son nom, ses atours, sa signification ou sa fonction. C'est un exemple de combien l'art peut être le site de la traduction culturelle et des processus historiques d'identification, d'échange, d'altérité et consacre une histoire de plusieurs rencontres. Le statut diasporique de l'objet d'art se façonne alors dans l'interstice qui lie les deux valeurs que sont la frontière et la biographie. Le point d'intersection de l'approche entre la frontière et la biographie de l'objet se situe là où l'identité, le sens et la valeur des personnes et des choses sont codés et recodés. Et c'est justement pour nommer cette intersection que John Piffle assimile aux objets le terme métaphorique de diaspora. Toutefois, cette capacité des objets à déplacer les formes et les idées a été le principal socle de la stratégie consistant à limiter ou à nier leur appartenance à telle ou telle culture. Et quelques exemples historiques et quelques exemples tirés de l'histoire du temps présent nous le prouvent et je m'en vais en donner quelques-uns. En 1976, l'UNESCO organise une rencontre à Venise où la question de la restitution est étudiée par des experts qui suggèrent la création d'un comité chargé de faciliter le retour ou la restitution du patrimoine. Le 7 juin 1978, le directeur de l'UNESCO, le Sénégalais Amadou Matar Mbow, prononçait son discours mémorable que vous connaissez tous pour le retour à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine culturel irremplaçable. Quelques mois plus tard, à Paris, 28 novembre, à l'occasion de la 20e session de sa conférence générale, l'UNESCO crée, je cite, « le comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale ». Une étude sera confiée à l'ICOM sur les principales difficultés ainsi que les solutions qu'implique la restitution ou le retour des biens culturels perdus en raison du fait colonial ou de l'occupation étrangère. Bien qu'étant pour la restitution du patrimoine, cette étude introduisait des réserves à trois niveaux. D'abord, elle mettait en garde sur l'obsession du chef-d'œuvre, dont l'appréciation est incertaine et transitoire, et la valeur trop souvent étroitement esthétique et parfois même plus marchande que culturelle. Ensuite, elle remettait en question l'appartenance de l'objet à telle ou telle culture en se basant sur le fait qu'il existe des chefs-d'œuvre réemployés par plusieurs cultures successives de sorte que leur attribution en devienne difficile. C'est l'exemple, je cite, des obélisques de Rome ou les vases chinois réutilisés par les artistes du XVIIIe ou encore la profonde influence de l'art africain sur les techniques picturales du XXe. Fin de citation. Enfin, cette dénationalisation de l'objet était assujettie à sa déterritorialisation vis-à-vis de son pays d'origine suite aux modifications des frontières. Aujourd'hui, sur le sillage de ce rapport de l'ICOM et en s'appuyant toujours sur le statut diasporique de ce patrimoine, de nouvelles stratégies discursives sont développées, comme la déclaration sur l'importance et la valeur des musées universels, largement discutée ce matin, signée par quelques-uns des principaux directeurs des musées du monde. ou par des expositions comme celle qui se déroule actuellement au Rüdberg Museum de Zurich sur la question de la provenance et qui minimise le volume d'objets spoliés dans les collections. Ou à travers des conférences alarmistes et démagogiques comme celui du professeur Marc-André Reynolds qui titre sa leçon inaugurale du 18 septembre 2018 à l'Université de Genève, « Faut-il vider les musées ? La restitution des biens culturels aux nations colonisées ?» En se cachant derrière la non-rétroactivité des traités et en répétant qu'on ne peut pas refaire l'histoire, le professeur Reynolds ira jusqu'à partager l'avis d'un étudiant qui, dans la salle, pose la question, qui pense que restituer, c'est courir le risque de forger un ethnocentrisme de ces sociétés qui réclament leurs objets. Et puis, en citant, entre autres, l'exemple de la Chine, et ce que je dis n'est pas le fruit d'une analyse, mais d'un constat direct, la vidéo est sur YouTube. Ou en posant comme remède le partage via des copies ou la circulation à travers le multimédia. Ce que les conservateurs africains ne recusent pas dès l'instant que l'objet diasporique retourne dans leur musée et que c'est eux qui décident de choisir les modalités du partage et les éléments qu'ils veulent partager. Du côté du continent africain, la condition diasporique des objets explique un argumentaire à mon sens peu réfléchi et pour cause. C'est bien culturel. De plus en plus évoqués à travers la mention « œuvre d'art », conduisent certains acteurs à rejeter ce patrimoine pour la simple raison qu'il est issu de l'histoire d'un goût esthétique occidental et par conséquent ne mérite plus d'être considéré comme un patrimoine africain. Or, qu'ils aient un caractère esthétique ou pas, qu'ils aient été reconvertis dans leur long périple qui les mène du lieu de collecte au musée, ces objets n'en restent pas moins des biens culturels, preuve d'un génie créateur d'une société, donc relevant de son patrimoine et de son histoire, qui peut être reconsidéré avec de nouveaux regards et d'innovants dispositifs. L'argumentaire qui refuse à ce patrimoine ce que Malraux appelle le droit à la métamorphose, ou Souleymane Bachir Diagne, comme ce matin, à être un objet mutant, ou bien à être un bien culturel artifié, selon les termes de Roberta Shapiro et Nathalie Yannick, n'est pas nouveau. Dans le rapport que Georges-Henri Rivière écrivit en 1975 pour le compte de l'UNESCO sur le musée des civilisations noires, il liste un certain nombre d'objets dont il convient de se méfier dans la politique d'acquisition du musée. Ce sont des objets qui sont isolés de leur contexte d'objets complémentaires, sont dépouillés de garnitures minérales, végétales ou animales, ont leur patine originelle ou leur patine d'usage dénaturée, sont de provenance inconnue ou incertaine, ont été exportés illicitement du fait de vols dans les sentiers archéologiques ou sont des supports de plus ou moins ingénus d'entreprises éhontées de spéculation et de hausse de prix. Bref, ce rapport de Georges-Henri Rivière était rédigé au moment où deux musées emblématiques du Sénégal avaient revisé leur rapport à l'ethnographie sans renier les objets qui en étaient les supports discursifs. En 1966, vous aurez vu ici Jean Gabu et André Malraux en compagnie de Senghor, qui les expliquent l'exposition qui était au Musée Dynamique. Donc, en 1966, l'exposition des arts traditionnels qui inaugure le Musée Dynamique de Dakar, je dis bien le Musée Dynamique de Dakar, est une occasion pour le Sénégal de regrouper les trésors diasporiques du patrimoine africain. Jean Gabu, qui avait théorisé le concept de musée dynamique comme contre celui de musée statique, ici, vous êtes devant le musée dynamique de Neuchâtel, et à côté, vous êtes devant la construction du musée dynamique de Dakar. Eh bien, monsieur Jean Gabu, en collaboration avec les architectes Michel Chenon et Jean Vérola, construira presque à l'identique le musée dynamique de Dakar, une fois et demie plus grand que le musée dynamique de Neuchâtel. Nous sommes dans un transfert de modèles, de technologies institutionnelles. On a parlé ce matin de cet universel. Les expériences, il y en a eu en Afghanistan, un peu en Mauritanie, mais je pense que le concept de musée dynamique tel que théorisé par Jean Gabu et achevé, c'était à Dakar. Il aurait presque voulu faire une exposition d'ethnographie, ce que Léopold Sédar Senghor refusera par courrier interposé, je dirais, en préconisant plutôt une exposition d'art africain. L'autre exemple concerne le musée Théodore Monod d'art africain qui a été créé administrativement en 1961 sous le nom de musée de Dakar et sous la tutelle du département d'ethnographie de l'IFAN qui allait bientôt disparaître. Vers la fin des années 50, le musée glisse d'une politique d'acquisition d'objets ethnographiques vers un esthétisme de l'art africain, ce qui conduit à son changement de nom en musée d'art africain en 1971. La biographie culturelle des objets, c'est par là que je vais conclure, pour citer Igor Kopitov et Arjun Apadurai, cette biographie culturelle des objets, ou leur personnification, pour revenir à Nathalie Yannick, soutiennent sa dimension diasporique qui leur confère à part entière le statut d'agent, pour reprendre Alfred Gill. De sorte que, on peut se poser cette question du droit des objets à disposer d'eux-mêmes, pour reprendre le titre du colloque de l'année dernière ici même, organisé par Bénédicte Savoie et Anne Potin. C'est d'ailleurs en vertu de cette spécificité que la question éthique se pose dans la poétique et la politique de sa mise en scène. L'objet en tant qu'image au prolongement du corps diasporique voyageant dans le monde est toujours prêt à quitter son terrain originel pour assumer un nouveau destin. Car, comme le dit Georges Matoré, l'image est à la fois potentialité et nostalgie. Ces objets qui seront de retour, comment devrions-nous les accueillir ? Certains retourneront dans les cultures dont les pratiques n'existent plus, tandis que d'autres peuvent être insérés dans des circuits ritualisants, dans un cas ou dans un autre. Ces objets doivent avoir la possibilité d'exprimer une seconde vie, faite, que ce soit esthétique ou historique, pourquoi pas, mais une seconde vie faite d'interprétation, de réorientation et de recodification. Je vous remercie.
Merci de nous inciter à comprendre qu'il y a plusieurs vies, et plusieurs vies, y compris pour les objets. Et je me souviens de lorsque nous avons travaillé ensemble sur le mot « restitution » dans les langues, dans les différentes langues parlées au Sénégal. Et là aussi, il y avait la trace de plusieurs possibilités majeures, du genre « rendre à l'identique », « Rends-moi ce que tu m'as pris », ou bien du genre « Faisons quelque chose ensemble et réinventons ». Et moi, j'ai été très troublée par cet ensemble de possibilités qui se traduit aussi dans les mots et dans la manière dont on peut nommer les objets et nommer les positions des objets. Donc, enfin, bon, je lance ça comme l'une des pistes à suivre, qui est celle des mots pour le dire, et pour dire les objets aussi. Maintenant, je passe la parole à Émilie Salaberry-Duhou, qui dirige aujourd'hui le musée d'Angoulême, le musée du papier, les archives municipales et l'artothèque d'Angoulême, donc qui est directrice depuis 2017, du service politique muséale et archives municipales à Angoulême. Et elle a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'art et des arts africains, en étant consultante, par exemple, à l'UNESCO. Elle a aussi géré des collections privées d'art extra-européen, avant d'être au musée d'Angoulême. Elle va nous parler aujourd'hui de consacrer, déplacer, transformer, réinterpréter les vies de l'objet. Merci.
Bonjour à tous et merci de cette invitation. Donc, moi, je ne suis pas chercheur dans l'université, je suis conservateur de musée. Donc, c'est à ce titre que je m'adresse à vous aujourd'hui pour partager un exercice auquel je me suis attelée dans une exposition qui a pris place au musée d'Angoulême en 2015. Qui visait en fait avant tout à m'adressant à un public pour beaucoup de non-avertis, hein, de gens qui ne connaissent pas le continent africain, son histoire et ce patrimoine que nous conservons dans les musées du territoire français. Mon propos c'est surtout de déconstruire quelques idées et clichés, notamment sur la tradition et l'art traditionnel africain, et cette idée d'une forme d'immuabilité et de création, on va dire, en cercle clos d'un certain nombre d'artistes et de populations africaines. Et donc, à dessein, Je m'étais attelée à interroger certains grands classiques, certaines icônes de l'art africain, et pour montrer qu'en fait, la question de la mobilité était vraiment omniprésente, que ce soit dans le choix des matériaux de production, ou bien dans la circulation de ceux qui produisent les œuvres, ou encore dans la circulation des objets eux-mêmes, et qu'on avait en fait derrière des mécanismes d'appropriation, de réinterprétation, de transformation plastique, ou même d'usage de ces objets. Alors je me suis beaucoup appuyée, d'ailleurs il avait eu la gentillesse d'accepter cette collaboration sur les travaux de Jean-Louis Amsel, qui a théorisé cette question des logiques métisses et du caractère perméable et souple en fait des identités culturelles, en montrant que, pour le citer, qu'on n'était pas peu le Bambara ou Malinké de toute éternité, mais qu'on le devenait. Et qu'il y avait effectivement des changements d'identité qui pouvaient être observés quand on étudie un peu finement l'histoire du continent et l'histoire notamment de ces objets patrimoniaux, des mutations dans le domaine éthique, religieux, politique ou économique. Que ce soit dans les périodes qui ont précédé la conquête coloniale ou dans les périodes, bien sûr, post-coloniales. Donc il y a cette grande ouverture vers l'extérieur, que ce soit un extérieur intracontinental ou un extérieur vers les autres continents, qui a eu un impact dans la création plastique. Alors, un des poncifs de cet art africain qui revient souvent et qui est omniprésent dans nos collections sont par exemple ces gardiens de reliques Kota. J'ai mis quelques objets des collections d'Angoulême à titre d'exemple, et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à les aborder sous l'angle de leur usage et de leur rôle de gardien de reliques des ancêtres. Ce qui m'avait intéressé à travers cet exemple, c'est la matérialité de l'objet et le choix de ces matériaux que sont le laiton et le cuivre, qui est, même si on sait qu'il y avait des mines de cuivre, notamment dans la région du Gabon et Congo, où sont implantées les populations Kota. En fait, on se rend compte qu'avec l'arrivée des commerçants européens et ce temps d'échange de matières premières sur les côtes, il va y avoir ces matières premières qui vont arriver sous la forme de lingots, de bobines de fil ou de chaudrons qu'on appelait les Neptunes, et qui a en fait, du fait des échanges commerciaux, un réemploi qui s'opère de ces matières premières presque telles quelles, si on peut dire, pour habiller en fait des objets à usage culturel, qui semble en plus parfaitement au centre de l'organisation sociale et religieuse des populations Kota. Et on voit très bien comment, dans un exemple comme celui-ci, ces plaques de métal qui formaient le chaudron, les Neptunes, et sont directement redécoupées pour être placées sur une âme de bois et venir dessiner cette figure anthropomorphe qui garde les reliques des ancêtres. Donc ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est le déploiement aussi de la créativité à partir de ces matériaux, puisqu'on a aujourd'hui Louis Perrois qui a fait un travail considérable de recensement de toutes les formes de gardiens de reliques en fonction des différentes régions du Pays Kota, et on voit comment la bobine de fil, la Neptune, ont pu engendrer des diversités de styles et de formes, et comment un matériau d'origine étrangère a pu être un ferment de création plastique. On pourrait on est un petit peu dans la même veine avec cette production perlée d'Afrique du Sud. L'exemple pourrait être aussi évoqué du côté du Cameroun, du Nigeria ou d'Afrique de l'Est. On est face à une production qui, avec l'arrivée de ce qu'on appelait des perles de verre venues de Venise, Murano ou de Bohême, perles qui étaient considérées par les commerçants européens comme de la pacotille, des monnaies d'échange qui, à bas coût, sont devenues en fait des matériaux privilégiés qui ont engendré une création plastique absolument époustouflante, avec une créativité inouïe, qui sont devenues en plus, par ailleurs, des objets vraiment de revendication identitaire, notamment en Afrique du Sud, où ils ont joué un rôle tout à fait considérable au moment de l'apartheid. Et donc, on voit encore une fois la réappropriation ou l'appropriation tout court de matériaux, de biens manufacturés, en l'occurrence les perles, qui sont venus enrichir, nourrir et réinventer une forme une pratique artistique qui existait auparavant à travers les perles qui étaient, elles, en coquille d'œuf d'autruche et en métal. Et donc là, l'arrivée de la couleur et de la polychromie a été l'élément déclencheur aussi de tout un langage de la perle qui a permis aussi de créer des identités et des sous-styles, on va dire, en fonction des populations qui les manipulaient. D'autres exemples sont assez intéressants en Afrique de l'Ouest, à travers notamment le cas des régalias à Chantilly, puisqu'on a les travaux de René Braveman qui ont largement démontré tous les phénomènes d'emprunt et de tradition artistique partagées. Et on voit aussi comment ce ne sont pas parfois donc des matières premières qui sont utilisées, mais comment des objets ont été distribués sur des territoires assez vastes. C'est le cas de ces insignes royaux à Chantilly, que sont les tabourets, vous avez aussi les chaises, les ombrelles, les sabres, qui étaient distribués dans des zones non à camp au moment de transactions commerciales ou de serments d'allégeance par des populations non à camp, comme les Nafana, les Dega ou les Koulango. Et on voit comment, en fait, il y a une forme de subordination indirecte qui se met en place par le truchement de l'objet, qui vont être, en étant assimilés matériellement par ces sociétés non à camp, vont finalement engendrer aussi une forme d'assimilation culturelle par l'usage en fait qui va être introduit de ces objets et qui amène aussi, voilà encore une fois, une sorte de logique de métissage. On est dans une forme d'adoption d'une organisation sociale et politique qui va passer soit par la récupération de ces objets, soit carrément ensuite par des phénomènes de commande à des artistes à Chantilly ou Bron qui n'étaient pas donc originaires de leur territoire. Il y a une étude très intéressante qui a été menée, qui n'a pas fait l'objet d'une publication, dans le cadre d'une thèse de doctorat à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. C'est une thèse qui remonte à 2001, qui a été menée par Evelyne Pinault-Paradis. Et elle s'est penchée, elle, sur la catégorie des masques home qu'on retrouve de manière très, très large. Vous avez la carte sous les yeux, sur une zone qui s'étend du haut Niger au Mali, au centre-ouest du Ghana, en intégrant la Côte d'Ivoire. Elle couvre cette zone, donc des zones d'occupation des groupes Mandé, Gour, Akan, qui eux-mêmes sont subdivisés en de nombreux sous-groupes. Et elle pose la question dans ses travaux du mécanisme en fait complexe de mobilité artistique et du processus d'emprunt qui s'opère sur une zone géographique qui est complètement transnationale par rapport à la cartographie actuelle. Et elle observe qu'en fait, il y a un phénomène de progression qui s'opère du nord au sud et qu'un acteur important a contribué à cette progression, c'est le forgeron-sculpteur qui était mobile à travers ce territoire. Elle a étudié un corpus d'objets extrêmement importants, des objets qui étaient encore conservés sur le continent africain, mais aussi dans les musées à travers le monde, et a montré que systématiquement, enfin, on était vraiment face à finalement un rite complet qui avait migré à l'échelle de l'ensemble de ce territoire, qui comprend vraiment une structuration de l'objet assez identique, tripartite généralement, avec cette partie home et ce principe en fait de figures animales composites qui viennent construire l'objet, qu'on avait des costumes qui accompagnent et qui composent en fait le reste du masque de même nature, que l'organisation de la musique autour de la sortie de ces masques était similaire, elle était structurée de la même manière avec des instruments de même catégorie, et qu'on était face systématiquement à des masques qui étaient, on va dire, au gras dans le corpus des masques plutôt puissants, qui avaient un rôle de régulateur du pouvoir, de régulateur social. Et elle fait l'hypothèse, en fait, que pour expliquer aujourd'hui cette expansion sur un territoire aussi vaste, en fait, on est directement lié à la grande histoire de cette partie de l'Afrique et notamment à l'expansion de l'Empire du Mali qui a structuré le commerce, et c'est une période de pleine expansion commerciale à travers cette partie de l'Afrique de l'Ouest, qui a structuré tout un commerce donc sur cette zone géographique étendue et a structuré aussi tout l'artisanat en castes, en s'appuyant notamment sur la caste des forgerons-sculpteurs qui migraient à travers l'ensemble de l'Empire et qui, en fait, par leur travail de production sur un territoire de plus en plus étendu, ont intégré des nouvelles catégories d'objets qui, par la fonction qu'elles avaient de régulateurs de pouvoir, ont été assez rapidement adoptées par les populations rencontrées, qui en ont ensuite fait une adaptation à un mythe de création local. C'est pour ça que les figures animales vont changer d'une zone à l'autre, mais qu'on avait une base qui restait commune et qui pouvait vraiment témoigner d'une tradition. Donc on a une forme de création dans la continuité et de particularismes locaux, mais en même temps d'expérience d'expansion culturelle sur un territoire absolument gigantesque. C'est un peu le même phénomène qu'on retrouve. Ça, c'est encore une des grandes icônes de l'art africain, l'art baoulé. Vous avez un exemple sur la droite d'un masque du musée d'Angoulême. L'exemple de gauche vient du muséum de La Rochelle, où en fait, on est face à une population d'origine à Caen, installée assez récemment au centre de la Côte d'Ivoire, qui en fait est un melting pot à la fois de populations à Caen et non à Caen, qui se sont métissées au moment de cette installation et qui ont emprunté des catégories d'objets qui n'existaient pas dans la production initiale, en l'occurrence le masque, qui était plutôt produit par les populations gourou ou sénoufo voisines. Et on voit à travers ces deux exemples les modes d'appropriation d'une catégorie d'objets et donc du coup d'un rite et d'une manière d'utiliser l'objet dans un contexte spécifique qui n'existait pas. Et dans le même temps, une évolution stylistique légère qui est liée à ce temps de l'absorption d'un nouvel objet. Je conclue juste avec les travaux de Monica Blackmoon-Visona, historienne de l'art africain-américaine, qui nous avait fait part de ses travaux qu'elle a menés dans la région lagunaire de la Côte d'Ivoire et que je trouve vraiment intéressant. Elle a montré en fait comment, en prenant appui sur des temps de festivals, de cérémonies et aussi dans des pratiques de divination chez des différents devins de la zone lagunaire de Côte d'Ivoire, comment finalement les populations n'avaient pas nécessairement besoin d'objets immédiatement présents sur leur territoire et au contraire, comment finalement tout type d'objet pouvait être approprié à partir du moment où physiquement, plastiquement, il interpellait la personne qui allait en faire usage. Et ainsi, vous avez cette poupée en plastique, certainement made in China, qui est arrivée par le biais du commerce mondial en Côte d'Ivoire et qui a été introduite et utilisée au même titre qu'une statuette en bois aurait pu l'être dans ce festival de la région lagunaire. Et cette femme de vin qui utilise indifféremment une statuette de style lagunaire produite par un artiste de son territoire, mais qui est allé également chercher une statuette de style baoulé, vraisemblablement sur un marché pour les touristes. Donc l'objet considéré à la base comme inauthentique par excellence, destiné à la vente, qui s'est retrouvé réinvesti de la même manière qu'ici, dans cet autre atelier de pratique divinatoire, où vous voyez en fait de la statuaire, qui est de la statuaire destinée à la vente, qui a été réutilisée, réintroduite, et finalement mise en usage avec ce badigeon de peinture argentée qui ne correspond absolument pas au canon de l'art africain tel qu'on les entend. Et donc, elle bouscule complètement nos critères d'appréciation en nous disant que finalement, et c'est un peu le cas au musée d'Angoulême, on se retrouve face à des collections pour lesquelles souvent on n'a pas d'informations sur les modalités de collecte et voire très peu sur les manières dont elles sont arrivées chez nous. Et qu'aujourd'hui, finalement, on est face à des objets un peu inerte, pour lesquels on a du sens à recréer, et que malheureusement, quand on n'a pas un produit de collecte de terrain scientifique, on est face à des objets qui auraient aussi bien pu être de style baoulé, mais utilisés en pays sénoufo ou ne serait-ce ou dans un autre pays, et qu'en fait, on doit remettre en question la totalité de nos cartels de musées et des discours en fait qu'on monte et qu'on explique aux gens. Donc, je pense que ces objets qui sont aujourd'hui dans un musée tel que le musée d'Angoulême, ils sont les héritiers de tous ces croisements, tous ces regards, de finalement cette polysémie par leur histoire, et que un des enjeux qu'on a aujourd'hui auquel il faut qu'on s'affronte, c'est peut-être essayer de rendre cette multivocalité et de sortir de cette manière un petit peu héritée des années 60 de classification et de discours un peu formaté sur des collections que finalement on a complètement à redécouvrir et à réinterpréter. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup débordé. Merci.
Merci beaucoup d'avoir complexifié les choses et de nous engager à réécrire les cartels de musée. Ça, c'est une chose dont on est sûr d'avoir besoin. Je cède maintenant la parole à Felicity Bodenstein, qui va nous parler des objets du Bénin. Elle travaille avec Bénédicte Savoie au sein du projet Translocation à l'Université de Berlin, à la Technische de Berlin. Et elle vient de soutenir sa thèse, enfin, elle ne vient pas, ça fait quand même déjà un petit bout de temps, 2015, à Paris-Sorbonne. Et depuis 2016, elle travaille sur le cas d'un butin de guerre pris à Benin City en 1897. Je pense que c'est de cela notamment qu'elle va nous parler, en nous parlant de Bénin global, réflexion sur une collection dispersée.
Merci beaucoup. Bonjour toutes et tous, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je vais rester effectivement un peu plus terre à terre, un peu plus proche de mon cas d'étude que nous l'ont peut-être été les présentations jusqu'à aujourd'hui. Mais du coup, j'espère que ça va nous donner aussi des exemples concrets à partir duquel nous pouvons travailler après. Dans l'image que vous voyez à gauche, vous avez une image donc de Loba Akenzwa II, qui tient dans sa main un objet en bronze, à l'instar de ceux qui sont largement produits aujourd'hui à Benin City et qui prennent pour modèle un objet en ivoire qui est aujourd'hui, lui, au British Museum et que vous voyez à droite. C'est ce masque représentant la reine-mère Idia qui a vécu au XVIe siècle que Akenzwa II regarde dans le livre placé en dessous, comme pour mieux comparer ces images de son illustre ancêtre. L'une dans sa main, tout près, l'autre à nouveau présent grâce à cette photographie. On est là dans l'intimité du chef traditionnel de Benin City, aujourd'hui au Nigeria, donc à ne pas confondre avec le Bénin. Nous avons toujours cette petite confusion au départ. On est là donc avec Akenzwa II, qui est portraituré ici en savant connaisseur des objets de sa lignée. Il apporte également, dans des articles qui accompagnent cette image, son point de vue sur les objets pillés en 1897 par les forces navales britanniques. L'objet qu'il regarde dans l'image, dans la photographie, est devenu particulièrement iconique, précisément parce qu'on l'a réclamé sans succès, sans prêt, pour le Festac de 1977, deuxième festival d'art et de culture africaine tenu à Lagos. L'objet en ivoire qui se trouve au British Museum fait par ailleurs lui aussi partie d'un groupe plus vaste de 5 masques très précieux, trouvés tous probablement dans la chambre à coucher du prédécesseur d'Akenzwa II, Loba Ovonramwen. Aucun de ces masques n'a été vendu dans les ventes officielles organisées par les militaires à Lagos ou à Londres, mais tous arrivent directement comme des souvenirs personnels dans les valises des chefs de cette dite expédition punitive. Dans les années 1950, on tente d'acquérir sur le marché d'art international des objets provenant de Benin City pour les nouveaux musées établis à ce moment-là au Nigeria. À travers ces initiatives, les acteurs du patrimoine comme Akenzwa II, qui a fait lui-même don de sa collection personnelle pour créer le premier musée de la ville, sont amenés à redécouvrir, du moins par l'image, les objets partis déjà depuis plus de 50 ans. Peu de groupes d'objets ont une histoire de dispersion aussi violente dans son mouvement initial et aussi étendue dans l'ampleur des lieux et des trajectoires empruntées. Environ 4000 objets se trouvent aujourd'hui dans plus de 90 musées et collections privées dans le monde. Pour moi, le problème, c'est comment rendre compte de cette vie nomade diasporique de ce groupe. Et surtout, ma question pour aujourd'hui, comment pense-t-on ces objets depuis l'endroit d'où ils sont partis ? En faisant cela, je voudrais infléchir l'usage actuel de la notion de diaspora en lien avec les collections de musées. Melville Herskovitz était le premier à utiliser le terme dans les années 1930 pour parler de l'identité afro-américaine et de sa particularité culturelle. Et depuis, la notion de diaspora a trouvé une place fermement établie dans l'étude des productions artistiques des personnes issues de la diaspora africaine. Dans un article publié en 2005 et puis en 2013 pour la version française, John Paffer demande plus particulièrement que se passerait-il si nous commencions à considérer les objets d'art d'Afrique et donc non seulement les productions des artistes issus de la diaspora, mais les objets eux-mêmes comme une diaspora. Cette notion s'associe donc alors aux collections des musées ethnographiques et dans le travail notamment de chercheurs comme Paul Bassu. On voit comment on tente de considérer ce que cela peut nous apporter en soulignant, par exemple, les avantages culturels que les communautés de la diaspora peuvent en tirer de cet état diasporique, qu'il ne faut donc pas forcément utiliser pour remettre en question, selon lui en tout cas, la notion de retour ou de restitution. Plus récemment, Haruna Padurai, en quelque sorte l'un des pères de la perspective sociale de la vie des objets, a aussi construit un discours sur les collections, notamment africaines, comme des, je cite, « réfugiés accidentaux ». On peut remarquer dans ces différentes réflexions que l'accent est sur les objets et les lieux d'arrivée, où, selon Stuart Hall, on pense chez soi de loin. Les objets diasporiques se distinguent donc dans leur nouveau domicile comme une catégorie qui permet de penser l'hybridité, et aussi ils doivent contribuer à contourner les phénomènes d'essentialisation des territoires et des cultures d'où ils proviennent. Toutefois, je propose de voir que la même chose peut être vraie dans les lieux d'où ils sont absents. Dans les relations au lointain associées à cet état diasporique des objets, caractérisé donc par le fait de penser cette part de soi qui se trouve ailleurs. Dans ces lieux d'absence, il contribue également à la construction d'identité hybride. Dans le regard porté au loin, se mêle un désir de tradition et de continuité, certes, mais également, et depuis longtemps, celui d'une modernité, voire d'un cosmopolitisme qui s'exprime à Benin City depuis près d'un siècle dans des formes partiellement très européennes de la patrimonialisation et de la conservation. Je voudrais essayer d'aborder cela à travers la question de la photographie, car celle-ci est devenue un trope important dans le dialogue avec les objets absents à Benin City et dans la construction du discours contemporain sur le patrimoine qu'on y trouve. Pour les auteurs bénis, la photographie est désormais considérée comme la suite et la meilleure analogie pour parler de la fonction de ces objets, notamment les plaques historiées en étain, pour la plupart du XVIIe siècle, qui sont très régulièrement présentées comme des photos, ayant la fonction d'illustrer les événements historiques. En 2007, Aubert Edoya remarque, et je cite, « Les bronzes sont des documents d'histoire en absence de la photographie ». On pourrait ajouter que l'inverse est également vrai. Et cela est particulièrement visible dans la galerie du Musée national de Bénin, où depuis l'année de son ouverture en 1973, on trouve la photographie comme un substitut des objets. Elles y sont utilisées, mais largement laissées sans commentaire, comme s'il pouvait s'agir de l'objet représenté lui-même. La muséographie suivait, et suit encore, une présentation iconographique des figures de l'histoire royale de Bénin, faite d'un mélange des objets restés sur place, qui d'après Ekpo Eyo seraient de deuxième rang, des copies en plâtre et des reproductions à grande échelle des objets. Dans la muséographie refaite en 2018, on retrouve exactement les mêmes reproductions jaunies par le temps, alors qu'on avait tout à fait le moyen de refaire des tirages, mais on a tenu à garder les anciennes photographies. Ici, nous avons par ailleurs deux copies différentes pour représenter Idea, un plâtre qui est celle de la tête qui est aujourd'hui au British Museum et la photographie d'une tête qui se trouve à Lagos. En rentrant dans la galerie aujourd'hui, on se retrouve nez à nez avec cette image où sur le fond du masque du British Museum, on lit « You're welcome to a rich heritage », ce qui d'un point de vue grammatical peut aussi signifier en anglais « Servez-vous d'un riche patrimoine ». Je ne sais pas si l'ironie était voulue. Vient ensuite, à taille réelle, la photo du fondateur du musée, Oba Akinzua II, dans une image qui le montre visiblement ému de tenir dans ses mains les éléments de son régalia au moment de la restitution en 1938, la seule officielle à ce jour. On doit cette image au photographe auquel on a désormais dédié le deuxième étage du musée depuis un an environ. Solomon Osaji Alongé a travaillé à Benin City depuis les années 30 jusqu'à sa mort en 1994. Mais l'histoire de l'arrivée de ces photos dans le Musée national de Benin City est aussi celle d'un retour, puisque le fond de plaque de verre est parti aux États-Unis dans les années 90, où il finit par être racheté par le Smithsonian à Washington, un ensemble d'images qui représentent toute l'histoire de Benin City au cours du XXe siècle, à travers les tirages donc, que le Smithsonian offre en 2018 au Musée national. Cette exposition, comme vous voyez ici, a également donné lieu à des retrouvailles, notamment avec la famille d'Alongé, ici dans une visite spécialement organisée pour qu'ils découvrent ces photographies. La particularité de cette exposition, qui était d'abord montée à Washington, est de placer côte à côte objets anciens, qui fonctionneraient donc comme une sorte de photographie précoloniale, avec les photographies du Bénin du XXe siècle, dont l'objectif de raconter une histoire en continu, sans marquant toujours cet arrêt de 1897. C'était lors de la visite de cette exposition que j'ai rencontré Osa Zonzomwegi Ero, le commissaire actuel de la culture d'Edo State, équivalent donc du ministre régional, qui cumule avec les affaires culturelles, le tourisme et la diaspora. À noter qu'il s'agit là d'une combinaison assez rare d'attributions. Il cherchait de l'aide pour avoir des images, et je cite, « des objets volés dans les musées ». Dans la brochure du Edofest qui me montre, prévue pour coïncider avec la fête royale traditionnelle de Ligwe au mois de décembre 2018, on annonce déjà, et je cite, « une exposition photo des artefacts volés originaux, là où ils se trouvent partout dans le monde ». Cette exposition prévue au sein du Palais Royal dépendait au moment où je l'ai rencontrée de l'accès à ces images, dont j'avais par ailleurs des milliers dans mon ordinateur. Mais pas à une résolution qui permettait le tirage de grande taille que le souhaitait M. Osemwedji. Il voulait des très grandes images pour qu'on voit bien les objets. Oui, je suis à la fin. Donc, en l'absence de l'objet volé et désiré, c'est une stratégie qu'on retrouve également à Lagos, où on préfigure également de cette manière les nouvelles salles du Musée national. Pour conclure, donc, à Bénin, et je vais faire vite, à travers cette diaspora des objets, on s'identifie très largement avec cette part de sa culture qui est ailleurs et qui est ailleurs depuis longtemps. Et si on voit l'équipe du Musée national devant la présentation au Metropolitan à New York. Ce qu'on perçoit, c'est ce que cette part de soi qui est au loin se vit de plusieurs manières. Et je n'ai pas l'intention ici de résumer la complexité de ça. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a à la fois une relation à une diaspora en quelque sorte à succès, mais aussi, et parfois chez la même personne, voire dans la même phrase, la relation à un bien volé. Cette apparente contradiction n'en est pas forcément une si on reprend le concept de diaspora pour penser les objets, car tout comme on pourrait souhaiter le retour d'un bien volé, on peut également souhaiter le meilleur pour la vie d'un parent parti au loin. Cela doit, à mon sens, nous mettre en garde contre les logiques binaires que nous trouvons parfois pour ou contre tout ou rien qui planent autour de la question des restitutions et qui ne résument pas la complexité de l'enjeu de cette question à Benin City, ou son rôle dans la construction de soi et le rapport à l'ailleurs qu'on rencontre et à tous les niveaux fondamentaux et constitutifs, comme je dirais, l'atteste l'omniprésence des images des objets absents. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. Là, je crois qu'on a beaucoup de matériaux, peut-être trop, pour arriver à faire un dialogue constructif. D'abord, peut-être entre vous, mais très rapide. Il nous reste, je crois, 5 minutes. Et puis, éventuellement, une ou deux questions de la salle. Alors, d'abord, entre vous, est-ce que vous avez des intersections plus fortes que d'autres à souligner ? On a vu des diasporas, au fond, externes, avec des localisations, etc. Et puis des diasporas aussi internes, avec des fabrications complexes et métissées. Voilà. Est-ce que Malik ?
Peut-être que je vais ajouter aux exemples que j'ai donnés tantôt la communication de Émilie rajoute.
C'est béni, on a jusqu'à 30.
Super. Donc, je dirais que la communication d'Émilie Salaberry rajoute un exemple de plus aux argumentaires qui sont souvent soulevés pour dire que cet objet ne nous appartient pas ou ne nous appartient plus. L'exemple de la réappropriation des objets, mais je dirais ici des matériaux qui voyagent et qui vont engendrer par une force de germination de nouveaux objets qui seront appropriés, comme l'image du Vax avec cet artiste Yinka Chonibar. Je veux dire que c'est également un des exemples qui ont été soulevés pour justifier que, puisque cet objet a eu plusieurs trajectoires et que c'est un objet composite, ça appartient à tout le monde, ça ne nous appartient plus. Ça, Je le dis parce que j'ai envie de donner ici, en fait, de livrer une petite anecdote, parce que c'est une question qui m'avait été posée par une journaliste. Quand elle m'avait demandé quels sont les objets que vous voudriez bien voir revenir, puisque le sabre de El Hadj Omar est exposé au Musée des civilisations noires, prêté par le musée, Muséum d'histoire naturelle du Havre, à l'occasion de l'expo inaugurale, ben, j'ai donné spontanément le sabre. Mais je me suis vu coller une réponse. Mais le sabre a été construit par les Français. Je veux dire, la lame. Et tout de suite, la réaction que j'ai eue, c'est la Suisse est réputée pour son chocolat, mais où sont ses plantations? Voilà, c'est bon, merci.
Le propos, moi, ce n'était pas de légitimer une quelconque maintien des collections, mais plutôt comment dire, d'ajouter un petit peu peut-être de complexité à la réflexion. Puis on retourne un peu sur la question de l'universel qui a été un peu débattue ce matin, c'est de dire que finalement, même par rapport à cette question de la restitution et par rapport au contexte et la manière dont les choses peuvent être faites, et aussi pour interroger la question des musées en Afrique, je pense que le discours qui doit être construit autour des objets extrêmement complexes et dépasse effectivement les cadres des pays tels qu'ils existent aujourd'hui. Et c'est, à mon avis, une donnée qu'on doit avoir aussi en tête quand on pense à ces nouveaux établissements patrimoniaux sur le continent. Mais bon, nos collègues vont nous en parler juste après. Mais c'est qu'en effet, on est face la plupart du temps à des objets qui dépassent effectivement très largement ce cadre national et dont l'histoire est extrêmement polysémique. Et donc, j'ai l'impression qu'on a encore un chemin tellement énorme à parcourir pour arriver à rendre compte de ça dans nos établissements et pour nos publics, en fait. Et ce sont des travaux de recherche qui ne sont pas forcément aussi connus, diffusés. Moi, j'avais vraiment essayé de rassembler tous les chercheurs que je pouvais, qui avaient vraiment travaillé avec cet axe-là particulier. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'objets dont on parle, mais on n'en parle pas de cette manière-là. On a tendance à avoir une approche encore très classicisante de ces objets du patrimoine africain.
Vous voulez ajouter quelque chose?
Moi, ma question, peut-être pour tous les deux, ce serait... Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui dans ces récits autour des objets diasporiques, c'est qu'en fait, il est énormément question de perte d'absence, de perte de contexte, de perte de savoir, de perte d'information, de perte de lien affectif, etc. Comment, depuis vos deux perspectives, vous arrivez à rendre ça visible dans les récits muséographiques? Et est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui a pris plus d'importance et une place plus importante dans votre travail? Émilie, par exemple, tu as dit que voilà, effectivement, on ne peut pas connaître le chemin de l'objet depuis l'Afrique en France souvent. Est-ce que c'est possible toutefois de rendre cette absence d'information significative pour le visiteur, parce que c'est aussi constitutif du problème historique voilà.
Le manque à sa place fait partie du problème, oui.
En fait, ici j'ai deux exemples parce que nous sommes en train, par exemple, au musée Théodore Monod de revoir la scénographie, la présentation des objets. Et il était question, entre-temps, on a eu la première restitution, justement, mais ce n'est pas d'un musée ni d'un État, c'est d'un galeriste privé, Didier Classe, installé à Bruxelles. Et quand l'objet est venu, eh bien, c'était avec Barbara, on était en train de discuter sur les idées de la nouvelle scénographie. Là, Barbara avait donné le terme d'objet migrateur. Ici, comment rendre forme cette absence? En fait, on avait décidé de faire dialoguer cet objet qui est retourné à un objet du patrimoine contemporain pour... entre ces deux objets, voir le gap, en fait, le vide qui s'est opéré, parce que le patrimoine est dynamique et a une longue histoire. L'autre exemple, c'est que, toujours dans la perspective de cette réinstallation des objets, on a demandé à un jeune artiste sénégalais, Cheikh Ndiaye, installé aux États-Unis, d'interagir avec la collection afin de produire un discours sur la base de son travail créateur qui allait prendre forme dans l'espace scénographique. Eh bien, malheureusement, je ne peux pas montrer encore les œuvres, mais je peux faire part de l'intention. Et il a travaillé avec des artisans qui sont venus dialoguer avec les objets afin de reproduire des objets, en fait, et des contenants vides qui seront exposés. Je vous dis, bon, désolé, je ne peux pas aller en... Mais en fait, ça a fait l'objet de pas mal de discussions qu'on a fait en compagnie avec l'École des Beaux-Arts de Nantes, représentée par Emmanuel Chérel. Voilà.
La discussion est ouverte. S'il y a des questions, je ne vois pas forcément les gens.
Non, pour répondre à Félicité, sur comment on essaye de rendre compte de ces trous, ces manques de... En fait, ça va être vraiment, je trouve, essayer de rendre compte de cette multivocalité, de cette polysémie de l'objet, ça va passer effectivement par la muséographie, qui, à mon avis, doit être plus dynamique qu'elle ne l'a été, plus évolutive, changeante, ce qui n'est pas forcément évident à gérer, je pense, dans un musée comme celui d'Angoulême, comme à Dakar, parce qu'on est des toutes petites équipes. Ça va passer également par la démultiplication des collaborations avec des chercheurs, avec des artistes, et par une programmation qui va tendre à offrir autant de regards qu'il y aura de personnes qui interrogent ces collections. Je pense que c'est peut-être la meilleure voie et la meilleure manière qu'on a d'essayer de rendre compte ou de redonner du sens ou des sens à des objets qui peuvent être pris effectivement comme des supports d'études, comme des objets de curiosité, comme des simples sources d'aspiration formelles, comme des objets mémoriels. Voilà, il y aura autant de regards qu'on aura de public. Et donc notre travail à nous, c'est d'orchestrer tout ça au fil du temps.
Et vous n'avez jamais envie de faire plusieurs cartels avec des points de vue complètement différents et qu'on comprenne comment ça fonctionne, tous ces points de vue?
On est en train d'y songer, alors en s'appuyant peut-être plutôt sur les outils numériques, du coup, pour ne pas inonder nos vitrines de textes dont on sait que le public ne lit pas les textes. C'est l'expérience. Les textes doivent être extrêmement courts.
Ils sont de toute façon illisibles.
Hein, voilà, donc on va s'appuyer justement effectivement sur des applications de visite pour lesquelles on aimerait avoir plusieurs entrées possibles et essayer au fil du temps d'enrichir et d'offrir autant d'expériences de visite qu'on aura effectivement de personnes qui se seront penchées sur ces collections. C'est une des solutions qui nous semble les plus intéressantes aujourd'hui. Hein.